Et oui, c'est un extrait d'Aladdin de Nielsen et c'est ce morceau qui nous sert d'indicatif pour sur FM+, pour le festival de Radio France et de Montpellier. Occitanie, voilà, merci Manu. Donc vous êtes bien sur FM+, le 91, et si vous êtes à Montpellier ou Alliance Plus 103.1 à Nîmes, et devant moi j'ai deux techniciens, Rami et Manu, et je suis au paradis. Ils ont dû dire une blague et ils rigolent là-bas. Allez, donc aujourd'hui, eh bien, nous allons écouter une interview que j'ai réalisée il y a quelques jours, juste avant, au début du festival, qui est une interview que j'ai réalisée auprès de Michael Schoenwand, qui est donc le chef, le patron de l'orchestre de Montpellier. Alors, il est là depuis quelques temps. Malheureusement, je n'avais pas pu avoir d'interview. Et là, j'ai eu la chance de pouvoir en réaliser un. Donc, nous allons écouter Michael Schoenwand nous parler de l'orchestre, de ce qu'il est lui, de son métier de chef d'orchestre et de tas d'autres choses. Et nous écouterons donc un intermède musicaux de nouveau du Nielsen. C'est un opéra qui s'appelle Mascarade et qu'il a enregistré il y a quelques temps avec l'Orchestre National Danois. C'était un merveilleux enregistrement et dont nous écouterons l'ouverture. Et puis, en fin d'interview, nous écouterons du Rachmaninov, la fameuse vocalise pour soprano. Et j'ai trouvé, c'est le hasard complet là aussi, que monsieur Michael Schoenwand, à l'aide du Berlin, avec le Berliner Sinfoniker, l'avait enregistré. Et il avait enregistré avec notre soprano colorateur national, c'est-à-dire Nathalie Dessay, que d'ailleurs, nous allons voir dans quelques jours, je ne sais plus exactement quel jour, mais nous allons la voir ici à Montpellier. Donc vous voyez que tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes. Donc voici Michael Schoenwand qui nous parle bien du premier concert qu'il a fait, mais plus largement, et puis quelques extraits musicaux. Bien, alors depuis combien ? Un an et demi, vous êtes patron de cet orchestre de Montpellier ? Voilà, vous êtes un grand chef qui a parcouru le monde entier, les plus grands orchestres, que ce soit la Philharmonie de Berlin, de Vienne et autres, et en particulier dans le Grand Nord aussi, on ira. Alors, qu'est-ce qui vous a fait que vous êtes accroché à Montpellier et que vous avez envie de continuer à Montpellier ?
Je crois que c'est d'abord l'aspect humain. Le fait que, vous savez, un orchestre, c'est pas un instrument mort. Comme un orgue ou des choses comme ça, ce sont des êtres humains où on respire, on pense, on vibre ensemble. Et il y a des orchestres où on se sent bien et il y a des orchestres où on se sent moins bien. Ici, j'ai tout de suite me senti très très bien avec l'orchestre. Ça, c'est déjà une partie. La deuxième partie, c'est j'adore la ville, Montpellier, j'adore la taille humaine de cette ville. Et puis le contact étroit qu'on peut avoir, nous, les musiciens, avec notre public, dans les deux sens. Alors pour moi, avec l'expérience que j'ai maintenant, c'est toujours un amour de la musique plus profond et plus grand et plus chaleureux, je crois, que jamais. Et j'ai envie de transmettre ces émotions, cet amour à notre public pour montrer à quel point la musique, n'importe quelle musique, peut être une langue entre des êtres humains. C'est le cas ici. On a un très bon contact avec notre public. Et c'est pour ça que je suis ici et que je reste ici.
D'accord. Parce qu'on sait que l'orchestre, et vous savez que l'orchestre a eu des multiples problèmes, on ne va pas y rentrer dessus, mais d'avoir quelqu'un de votre notoriété qui a envie de s'implanter à Montpellier, je pense que tout le monde a été très sensible sur ce fait-là. Je pense que tout le public est assez heureux d'avoir Michael Schoenwand comme chef.
Mais moi, je suis heureux aussi. Je trouve qu'il y a un contact assez chaleureux entre nous tous qui me touche profondément. Et cette transmission d'émotions, de montrer à quel point la musique est forte dans notre vie et nécessaire dans notre vie. Pour moi, c'est beaucoup plus intéressant de me représenter sur les grandes scènes, bien que c'est formidable d'être là aussi, mais on est plus intime comme ça, et on est plus direct ici, peut-être que dans des grandes villes de 3, 4, 5 millions de personnes.
D'accord. Alors, votre répertoire, il est immense, j'ai envie de dire. Donc, non seulement vous faites les grands, on vous a vu ici dans Turandot. Oui, Turandot, pardon. On sait que vous faites le grand répertoire à Nice, vous en avez fait quelques-uns aussi. Mais aussi, vous faites les musiques du Grand Nord. Et là, on vous a vu, vous avez fait énormément d'enregistrements. Alors, est-ce qu'ici, à Montpellier, vous avez envie, d'ailleurs, le programme d'aujourd'hui, ça, c'est pas le Nord, c'est plutôt l'Est, mais enfin, bon, est-ce que vous avez envie de nous montrer ce que c'est que cette musique-là?
Bien sûr, personne ne peut s'échapper à ses racines. Alors, il faut savoir d'où on vient pour savoir où on va. Et il est évident que la musique nordique, surtout la musique danoise, parce que je suis danois, porte une grande importance dans ma vie à moi. Mais je suis pas nationaliste.
Mais c'est une
grande différence. Et comme vous dites, je vois l'horizon assez large. J'aime bien montrer. J'étais des lumières sur la musique des autres parts du monde, mais le programme pour l'ouverture du festival. Vous avez raison. Le titre, c'est le Voyage d'Orient, mais il y a un côté danois aussi dedans, parce qu'il y a des œuvres de Carl Nielsen, notre plus grand compositeur danois. Et puis la saison prochaine aussi, je vais jouer un peu de la musique, disons inconnue pour la grande plupart des Français, de notre région, de la Suède, du Danemark, de Finlande.
D'accord. Alors le programme d'aujourd'hui est assez intéressant parce que vous mélangez les deux Scheherazade, j'ai envie de dire, celle de Ravel et celle de Rimsky. Alors c'est vous qui avez pensé à cette organisation du programme, ce mélange entre les œuvres ?
Tout à fait. Quand on a parlé du programme de l'ouverture du festival, j'ai pensé, mais c'est, puisque le titre du festival est Le Voyage d'Orient, c'est-à-dire le rêve d'ailleurs, j'ai dit, on peut pas faire un concert traditionnel avec d'abord un morceau de Nielsen danois, ensuite Ravel pose Champagne, et puis Rimsky, n'est-ce pas? C'est trop attendu, disons, hein, c'est ça ce qu'on attend. Et j'ai dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne décompose pas le programme? Des coupures comme ça, on joue la musique dans son intégralité, mais de jeter la nouvelle lumière surtout avec la présence de Lambert Wilson, qui est un très grand acteur avec une grande sensibilité, de rajouter des choses inattendues pour qui est digne à un festival comme celui-ci. Et moi, j'ai passé beaucoup de temps en lisant des centaines de poèmes français pour trouver justement les poèmes qui correspondent à la musique, au thème des œuvres différentes.
Surtout que le Rimsky, on peut, entre guillemets, facilement le découper en petits morceaux.
Oui, mais c'est presque une symphonie de toute façon, n'est-ce pas? C'est quatre mouvements, mais quatre contes différents. Et pareil pour les poèmes de Scheherazade, de Ravel, pas Tristan Klingsor, ça sont trois atmosphères complètement différentes. Et quand on les découpe comme ça, il y a il y a quand même beaucoup d'espace entre les chansons dans le programme de ce soir. Peut-être on réalise à quel point ces chansons de Ravel sont géniales, parce qu'ils sont vraiment presque des aquarelles, des nuances subtiles à l'infini.
Est-ce qu'à votre avis, c'est plus difficile pour la voix ou pour le chef ou pour l'orchestre? Le Ravel.
Oh, le Ravel, c'est toujours difficile pour tout le monde, mais mais c'est ça qui le rend formidable. Alors si on n'a pas de challenge, il a rien. Là.
C'est ce qu'il disait. Lui, il disait, j'écris de la musique compliquée pour que les amateurs ne la massacrent pas.
Ça m'a fait. Alors espérons que nous sommes pas des amateurs. Non, mais voilà. Non, c'est une musique d'une subtilité formidable. Et puis plus que je travaille sur Ravel, beaucoup fait de sa musique. Mm-hmm. Moi, je le connais.
Ah oui?
Comme personne, parce qu'il se cache toujours des masques comme ça. On sent sa vie intérieure à travers sa musique, mais peut-être il n'a jamais osé vraiment vivre.
Mais c'est ce qu'on dit, les biographes disent qu'on n'arrive pas à le cerner. Hein.
Non, c'est ça, sa sexualité, ses désirs. Mm. On ne peut pas vivre toute une vie en désirant que des horloges. Mm-hmm. Mais c'est quand même formidable cette séparation entre sa vie extérieure et intérieure. Et ça me fascine.
D'accord. Alors les autres compositeurs, il y a du Nielsen, on a dit. Ouais. Alors le Nielsen, bon, j'ai un peu écouté les œuvres, c'est particulier, c'est Aladdin, c'est ça. C'est particulier comme œuvre.
Mais c'est une musique qui est commandée par le Théâtre Royal du Danemark.
Oui.
Pour la pièce de Oehlenschläger, c'est une pièce classique chez nous. Alors Nielsen a écrit presque 90 minutes de musique de scène. C'est une grosse œuvre.
Elle est pleine comme œuvre, il y a des moments faibles.
Oui, non, c'est plein. Mais il a composé pour le théâtre. Et quand il avait pour les répétitions au théâtre, il réalise que le metteur en scène a mis l'orchestre en coulisses. Parce qu'il a voulu utiliser la fosse, il a explosé. Il a dit mais vous pouvez jouer la musique, mais il ne faut pas mentionner mon nom. Et ensuite, il a tiré cette suite de sept mouvements, dont nous faisons quatre, je crois.
Oui.
Et voilà, c'est devenu une de ses œuvres les plus connues.
Alors, musicalement, comment vous la caractériseriez, cette suite d'Aladin ?
Ah oui, il y a ce parfum oriental dedans. Bien sûr, mais vu du Danemark.
Oui,
alors,
ça
fait encore plus loin que la France. Alors, la lumière dans sa musique est plus blanche que la lumière d'un compositeur français. Alors, c'est moins jaune, c'est plus blanche comme lumière. c'est plus clair, peut-être. C'est peut-être, il y a une fraîcheur donc qu'on ne voit pas toujours dans la musique de votre pays. Mais voilà, c'est.
Il était attiré a priori par l'Orient ou pas plus que ça?
Non, je crois que c'était une commande. Oui. Mais il était un grand voyageur. Il était beaucoup ici en France, beaucoup en Espagne. Mmh. Il était un très grand écrivain. Il a écrit
ah oui.
beaucoup, beaucoup, beaucoup de lettres. Et on vient de publier toutes ces lettres en 12 bandes. Alors, c'est beaucoup. Mais c'est fascinant de lire aussi pour comprendre un peu l'époque, 1915-20. Alors, c'est très, très, très intéressant. Et comme littérature aussi, c'est premier plan.
D'accord. Et vous jouez souvent de Nielsen ?
Oui.
Ouais.
Oui. Pour nous, c'est fascinant parce que je crois que c'est l'unique compositeur que je connais qui, à la fois, est connu et aimé par tout le monde au Danemark. Il a écrit des centaines de chansons que nous chantons tous.
À l'école.
Comme, à l'école, aux fêtes, voilà. C'est comme notre musique populaire, folklorique. Alors, tout le monde connaît et aime ces chansons. Et en même temps, il a écrit une musique la plus radicale pour son époque. Non seulement au Danemark, mais en Europe. Bartok, Stravinsky et Schoenberg ont tous voulu le voir, de parler avec lui, parce qu'il était tellement avancé. Alors, pour moi, c'est l'unique compositeur où on a les deux côtés. Aimé par tout le monde, comme, je ne sais pas, Yves Montand ou des choses comme ça, ici en France. Tout le monde aime. Et aussi le plus avancé, comme Pierre Boulez. Vous voyez, les deux côtés liés comme ça, c'est fascinant.
Et dans sa vie, il a toujours été comme ça, où il a toujours alterné les deux côtés.
Non, il était le fils d'un paysan, qui vraiment fait toute la gamme de carrière, devenu le grand directeur du conservatoire, le compositeur le plus connu chez nous, alors... C'est un voyage incroyable et qui a coûté cher. C'est évident, si on vient d'un petit champ à l'arrière-pays du Danemark, et tout le monde, au milieu de sa vie, fin de sa vie, le connaît. Alors, tout le monde veut quelque chose de ce monsieur-là. Parfois, il était obligé de se vraiment retirer, de disparaître une ou deux semaines juste pour pouvoir respirer.
Respirer, d'accord. Alors moi, je vous ai connu dans la direction par les Sibelius, les symphonies de Sibelius que vous avez enregistrées. Alors là, Sibelius aussi, ça fait partie des grands compositeurs. Bon, il n'est pas norvégien, mais enfin bon.
moi, je suis danois, pas norvégien. mais il y a, on dit toujours le Grand Nord.
Oui.
Mais la distance entre la Finlande et le Danemark, ouais, c'est 1000 kilomètres, plus que 1000 kilomètres. Alors
oui,
vous voyez.
C'est pas vrai. Mais
l'image du Grand Nord, c'est toujours ça. Mais il est vrai que Sibelius était très souvent à Copenhague en même temps que Nielsen. Ils se sont très bien connus. Il a écrit pas mal de pièces de théâtre pour justement le théâtre royal. Mm-hmm. À Copenhague, le même théâtre, donc à Latin. Mais je crois que la musique de Sibelius est plus accessible pour des gens de l'Europe parce que sa façon d'orchestrer, c'est plutôt le style de Vienne, de Brahms, de Wagner même, que Nielsen, qui a sa propre sonorité à lui.
Vous pensez?
Oui.
Ouais. Mais quand même, ces dernières symphonies, que ce soit Inextinguible ou d'autres, c'est quand même, j'ai envie de lire, entre guillemets, c'est du lourd comme symphonie. C'est
de Nielsen, vous voulez dire, ouais.
De Nielsen, oui, pardon. Ouais. C'est lourd comme symphonie.
Oui, c'est très lourd parce que c'est... C'est des symphonies qui est de vie à la mort.
Oui.
Il y a une bataille.
Elle est difficile à cerner, je trouve.
Ça dépend. Il a des niveaux.
Moi, je trouve que c'est ouais, plus difficile à cerner que du Mahler, si je peux me permettre.
Oui, oui, oui. Oui. Parce que c'est un autre monde.
Oui, absolument.
Mais c'est toujours cette bataille entre le bon et le mal dans la vie.
Ouais.
Alors, le côté. Amour positif, c'est toujours très tonal. Vous avez des mélodies très simples pour l'oreille. Il y a le côté mal qui est très, très, très dissonante, où il y a vraiment une force, beaucoup de percussions. Mais c'est juste pour montrer, justement, la bataille entre le bien et le mal dans la vie.
Mais je les confonds souvent, vous avez vu. La preuve, je les confonds souvent. Mais ce que je trouve intéressant dans ces œuvres, c'est qu'effectivement, il y a le côté, des fois, la grande mélodie qui en finit plus, qui est... on voit plus la fin, hein. C'est comme les grands pays, les grandes plaines chez vous. Mais de côté, il y a aussi quand même quelque chose, on sent qu'au fond, il y a quelque chose qui se trame, qui monte. Et je trouve que c'est, enfin, une structure forte dessous. Et je trouve que ces compositeurs-là sont de beaucoup d'intérêt.
Oui, mais c'est comme j'ai dit, c'est un compositeur unique, je trouve. Même dans sa structure de sa musique, c'est pas comme une symphonie de Mozart ou de Beethoven.
Ouais, c'est
ou de
pas la forme sonate.
Non, c'est pas du tout, pas du tout. Voilà. Mais c'est ça qui est intéressant, n'est-ce pas? On voit vraiment sa personnalité. Il y a aussi une douleur terrible dedans, une agression et un humour aussi. Il a beaucoup d'humour.
D'accord. Alors après Montpellier, vous allez diriger où? Vous prenez des vacances peut-être?
Je vais diriger dans ma cuisine à Copenhague pendant 4 semaines avec ma famille. On va prendre les vacances, je crois bien méritées. Et puis je vais à Vienne pour diriger la Philharmonique de Vienne. Oui. Et puis je reviens ici.
D'accord. Voilà. Alors rappelez-nous cette année ce que vous nous faites comme programme. Il y a beaucoup de programmes cette année.
On commence, le premier programme que je fais, c'est avec la Symphonie fantastique de Berlioz. Et un pianiste canadien formidable qui s'appelle Amla,
oui,
qui joue le premier,
ouais,
le premier concerto de Brahms, où je me réjouis beaucoup de jouer avec lui. Ensuite, il y a Les Songes de nuit d'été de Mendelssohn, il y a l'opéra Lohengrin de Wagner en version concerto.
Vous avez déjà dirigé Lohengrin?
Oui, très souvent.
D'accord.
Bon, mais voilà.
Des disques de prévus avec l'orchestre ou pas du tout?
Si, on est en train de discuter, on est en train de prévoir 2 ou 3 enregistrements, mais il faut trouver d'abord le bon répertoire, les bons chanteurs ou solistes, et les maisons de disques qui ont invité, bien sûr, mais je trouve que c'est aussi quelque chose qui va très bien pour un orchestre de travailler vraiment au fond avec des disques comme ça, parce que c'est pour l'éternité quand même. Alors, il faut tout mettre en ordre, bien en place, et en même temps garder le joie de faire de la musique. Parce que parfois, les disques, si on les fait, ça devient un peu stérile, un peu laboratoire. Et j'essaie d'éviter ça, pas justement garder le souffle de la musique.
Espérons que vous aurez des enregistrements du niveau de Mascarade que vous avez enregistré il y a pas très longtemps. Cela, c'est une grande qualité, là.
Ouais, mais ça, c'est, vous savez, c'est un opéra qui m'a suivi toute ma vie.
Ouais.
Je l'ai connu par cœur à partir de l'âge de 11 ans.
Par cœur?
Oui, absolument. Absolument. Alors, ça fait 15, 50 ans que je connais par cœur et je porte toujours le même amour. Et on a eu une distribution formidable, unique pour ça, et j'ai tout de suite dit à la radio, maintenant. Moi, je vais l'enregistrer une fois dans ma vie, vraiment bien, avec ce chanteur qu'on a là, c'est maintenant ou jamais.
D'accord.
Voilà.
Et vous avez gagné.
J'espère. C'est une sorte de testament positif pour moi.
D'accord. Eh bien, je vous remercie, et j'espère qu'on va se retrouver très bientôt à Montpellier. Ouais. Il n'y a pas de problème. Hein.
Ouais,
A priori, vous êtes parti pour combien d'années à Montpellier?
3 ans, mais on va voir pour l'avenir. Très heureux ici, j'aimerais bien rester.
Il faut nous mettre plus d'opéras encore.
Oui, mais c'est une question de sous aussi. Ouais. C'est pas une période où il y a beaucoup facile, mais s'il y a un sponsor qui nous écoute pour l'instant, alors venez vers nous, alors on est prêts.
Merci Michael Schoenmann.
Ouais, merci vous en prie.
Voilà, vous venez donc d'écouter un interview de Michael Schoenwan, qui est le patron de l'orchestre de Montpellier, qui a donné un concert pendant ce cadre du festival. Et le dernier morceau que vous avez écouté, c'est dans la vocalise de Rachmaninov, chantée par Madame Dessay, que vous avez pu écouter hier soir, mercredi 20 juillet, à l'Opéra Berlioz, où elle chantait des leaders de Mendelssohn. Alors pour ce qui est d'aujourd'hui, le jeudi 21 juillet, ce soir à 18h, c'est en fait l'orchestre, l'un des orchestres Radio France, le Filar, dirigé par Pablo González, et vous pourrez écouter du Duca, du Caplet, du Stravinsky, ça c'est le concert payant. Et si vous voulez aller écouter des concerts gratuits, Salle Pasteur, 12h30, vous avez un quatuor. Vous avez une conférence à 15h autour de la famille Mendelssohn, et puis à 18h, vous aurez donc Christian-Pierre Lamarca, violoncelle, et Philippe Cassard, piano, qui vont nous jouer du Mendelssohn, de Gaïd et du Ries. À 22h, le domaine d'eau, donc le jazz. Et puis, si vous êtes en métropole, concert gratuit à Murviel, et Montpellier, Pignan et Prades, et plus généralement en région, Générargues, Saint-Alban-sur-Limagnol et Fourques. Voilà, ceci termine notre petite émission pour aujourd'hui, et je remercie la technique, toujours très efficace, et je vous dis à demain.